Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Dans cette deuxième partie, Thuy, un ancien Khmer rouge, revient sur son histoire. Soldat dans l'armée, puis réfugié, Thuy s'est retrouvé en France dans une famille adoptive. Adulte, il a fait le choix de retourner au Cambodge où il vit aujourd'hui.
Je te rencontre aujourd'hui à Siem Reap. Donc tu as un parcours étonnant, tu es né au Cambodge, tu es parti en France, tu es revenu 2 semaines avec l'armée française pour déminer les mines que tu avais posées. Enfin, tu t'es rendu compte en déminant tes premières mines que c'était toi qui les avais posées grâce à ce petit ruban rouge. Qui était ta marque de fabrique, une sorte de protection pour ne pas sauter dessus. Tu quittes le Cambodge après 2 semaines et là tu commences à voyager en Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je te retrouve ici à Siem Reap?
Par hasard.
Est-ce que le hasard existe?
En catho, non. En étant catholique, non. En étant bouddhiste, je ne sais pas. Au fait, dans mes voyages, j'ai rencontré pas mal de gens, comme toi. J'ai rencontré un certain Pascal, un Français qui faisait son tour du monde en autostop et compagnie. Donc voilà, il faisait son tour du monde. Sauf que lui, il partait de l'autre côté, moi je partais de l'autre côté. Et à un moment donné, on s'est retrouvé en Thaïlande. On s'est retrouvé à Bangkok, au fait. Et nez à nez, dans le même hôtel, limite près la chambre d'opposé, quoi. Et puis il me dit, oh, qu'est-ce que tu fous là? Ah bah ouais, bah non mais attends, moi je veux bien aller voir le Cambodge, je veux voir les temples d'Angkor, etc. Donc à l'époque c'est encore sur les ruines et tout ça, c'est pas comme maintenant. Et il me dit, si tu veux, on y va ensemble, voir les temples, etc. J'ai dit non, on n'y pense même pas. Je t'en ai déjà parlé, on s'est rencontrés au Kenya. On avait déjà discuté de cette histoire, de son histoire, de mon histoire, etc. Donc je lui ai déjà dit que je ne retournerai jamais au Cambodge. Donc il a compris, il a dit, oh, bon, d'accord, ok, non, pas de problème, écoute, je pars 3 jours en Cambodge, toi tu restes ici à Bangkok, le lendemain il part au Cambodge, et le soir il me téléphone, écoute, je suis avec des flics là, et ils sont en train de me mettre des limonades parce que j'ai pas de passeport. Donc regarde dans ma valise si j'ai des passeports ou pas. Effectivement, il y a son passeport dans la valise. Et il me dit, écoute, là, ils vont m'enfermer pour toute la nuit. Donc, s'il te plaît, trouve un moyen pour m'enlever mon passeport pour qu'il me libère, quoi. Donc, j'ai pris la décision de partir sur la frontière cambodgienne, à Poy Phet. Et quand je suis arrivé là-bas, ils l'ont libéré, évidemment. Et il m'a dit, puisque tu es là, tu peux traverser maintenant. Et j'ai traversé. Et depuis, je ne suis jamais revenu.
Ah oui, donc t'es revenu en 2006 avec ton ami Pascal, que tu as récupéré à la frontière Poy Phet, et depuis tu es là.
Voilà. Du coup, je ne suis plus jamais retourné en France. Enfin si, pour les vacances, pour ma famille, mais pas pour y vivre. Mais je n'ai plus bougé.
Et comment ça se fait que tu as réussi à finalement te réacclimater à ton pays? Parce que dans ta tête, c'était niette, quoi.
Oui, c'était pas si simple que ça, mais c'est vrai que c'était vraiment, vraiment niette. Mais je pense que je me suis retrouvé à Siem Reap ici. Peut-être que je reconnaissais des choses, peut-être que des choses me revenaient. Et j'avais toujours cette haine, mais je regardais les gens qui étaient souriants, qui étaient pas si différents que moi. Je parlais encore mon Khmer un peu approximatif, donc ils se foutaient un peu de moi, mais ça, c'était pas grave. J'étais ni Khmer, ni français. C'était pas grave non plus. J'ai rencontré la communauté française ici, qui me considérait comme un Khmer. Mais j'ai rencontré aussi des Khmers qui me considéraient comme un français. C'était pas grave non plus. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que j'aimais ce pays. En fait, j'ai compris que c'est ça qui me manquait. C'était de revenir ici, dans mon propre pays, pour passer un séjour. Et alors j'ai décidé de poser mon sac à dos et d'y rester. Voilà.
Et alors, en arrivant ici, tu étais en mode voyage avec ton sac à dos. Mais pour rester sur place, il fallait aussi trouver un moyen économique de pouvoir survivre.
Économique, pour l'instant, c'était pas encore l'alerte rouge, parce que j'avais pas mal économisé aussi, avec la Légion, avec mes parents aussi m'ont un peu subventionné aussi, donc c'était pas encore l'alerte rouge, mais effectivement, il fallait que je travaille, en fait. Et au fait, je m'étais donné un an. Dans ma tête, c'était de dire, bon, si en un an, je résiste, c'est que je peux vivre ici. Et en un an, bah, j'ai essayé de faire à droite, à gauche, de trouver du travail. En même temps, bah, j'ai compris aussi que les gens étaient beaucoup plus pauvres que moi. Et je voulais les aider. Je voulais aider mon propre pays. Et j'ai commencé par aider les femmes. Alors, les femmes en prostitution. Pourquoi, je ne sais pas. C'était comme ça. Je me suis dit, oh, peut-être une arrière-pensée à ma sœur, ma maman, je ne sais pas. Et je voulais sortir les jeunes filles de la prostitution pour les remettre à l'école, leur donner une éducation, un peu comme on m'a tendu la main à un moment donné. Et donc l'idée, c'était de subventionner les études, de leur payer la nourriture, du riz, et pour qu'ils se viennent, et en même temps d'aller à l'école. Ça s'est cassé la gueule. Hein.
La prostitution ici au Cambodge, donc en 2006-2007, hein, ton retour, elle est destinée à qui? Aux locaux ou aux expatriés, aux voyageurs?
Les deux. En fait, depuis l'ouverture des frontières, tu vois beaucoup de gens, des personnes âgées arriver dans ce pays, seules. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus contrôlée, elle est plus destinée, la position elle est plus destinée maintenant à un public de masse comme les Chinois, les Coréens, ou alors des Cambodgiens riches. Mais elle est plus protégée, enfin elle est plus protégée, on n'arrivera jamais à protéger la position, mais c'est-à-dire qu'elle est plus contrôlée si tu veux.
Mon premier souvenir de Siem Reap, je suis passé ici en 2003-2004. Et donc Siem Reap est encore une ville poussiéreuse à ce moment-là. Il y avait très peu de routes goudronnées. Et tu avais effectivement partout les néons roses avec les filles assises sur des tabourets à attendre les clients qui n'étaient pas encore nombreux à l'époque. Mais c'était très visible, ça sautait aux yeux.
Oui, c'est le sport national. C'était le sport national en fait à l'époque. Maintenant, le gouvernement a fait un gros travail sur ce genre de maison close, tu veux. Et donc, a commencé à chasser, parce qu'il y avait justement l'arrivée des touristes en masse. Ça s'est commencé en 2000, à partir de 2000, 2004, 2005, 2006, là, ça a commencé, le tourisme de masse, en fait. Et donc, il fallait un peu nettoyer la ville. Donc, la police a commencé à nettoyer tous ces genres d'endroits, les drogués, les handicapés. Handicapés par la guerre, ou pas forcément par la guerre. Par les accidents de moto, ou des mines, ou des choses comme ça. Et après, bah, la ville a été plus ou moins contrôlée, elle est rentrée dans l'UNESCO. Il y avait beaucoup de choses qui s'est créées. Les hôtels ont poussé comme les champignons, les restaurants ont été ouverts. Donc, tu vois, donc il a fallu cacher un peu cette petite misère. Et donc, ils ont fait un nettoyage énorme sur la ville de Siem Reap, si tu veux. Donc, les maisons sont fermées. La prostitution n'est pas visuelle, comme tu as vu il y a quelques années. Mais ça existe toujours. Hein, ça existe toujours.
En 2006, hein, quand tu reviens ici, est-ce qu'on parle encore du Khmer Rouge? Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore?
C'est un sujet assez tabou. Mais je peux comprendre. Parce que je t'ai dit il y a quelques minutes que plus ou moins, à un moment donné, nous avons été Khmer Rouge. Donc c'est un sujet qui est devenu tabou. C'est-à-dire quand on rentre vraiment dans les détails, on s'aperçoit que cette personne a suivi l'idéologie. Voilà. Par exemple, ma belle-mère qui est ici, pour survivre, elle a dû faire des choses qui pouvaient protéger ses enfants. Et bien sûr, dans la dénonciation, mais toutes sortes de choses. En fait, mais en fait, à un moment donné, bah, tu vis dans l'action, en fait, tu es Khmer Rouge.
Et quand est-ce qu'on arrête d'être Khmer Rouge? À partir de quel moment on a pu retrouver une sorte de dignité ou de liberté, ou en tout cas de pouvoir faire des choix, ses propres choix?
Depuis 93. Donc quand on a chassé les derniers Khmer Rouges qui étaient enfouis dans les montagnes, dans les forêts, etc., on rendait l'armement à cette époque. Et là, plus personne n'était Khmer Rouge, en fait.
Qui c'est qui a chassé les Khmers rouges en 93?
L'UNTAC, le gouvernement français, les Américains, et une grosse opération ici. Voilà.
Donc on a désarmé les Khmers rouges, qui sont redevenus Khmers. Et la vie a essayé de se reconstruire.
Exactement.
Et tous les dirigeants?
On va pas rentrer
dedans. On veut pas rentrer dedans. Tous les dirigeants de l'Ankar, c'est ça, hein, c'est de l'Ankar, eux étaient encore là.
Oui.
Mais bon, comme ils n'avaient plus de pouvoir, ou plus...
Ils étaient répandus dans leur village, cachés. On les a retrouvés, maintenant ils sont dans les jugements et compagnie. Voilà. Et ça n'intéresse plus personne.
Alors, si tu peux en parler, t'en parles pas, mais moi j'ai été marqué par la visite du S21 et par le Killing Field. Est-ce que tu as découvert ces endroits? Est-ce que tu y allais ou pas?
J'ai beaucoup voyagé en Cambodge. Enfin, je pense que je suis allé dans toutes les provinces, pas toutes les villes, mais j'ai visité le Cambodge en fin fond, etc. Parce que je t'avais dit aussi que je recherchais aussi la trace de mes parents, la trace de ma famille. Mais il y a un endroit où je ne suis jamais allé, c'est le S21. Non, je n'irai pas. Et encore moins le Killing Field. Je pense que c'est la peur. Pour un homme de 41 ans, enfin 48, je ne sais pas, je pense que j'ai peur. J'ai peur de trouver des images. En même temps, je veux savoir, mais en même temps, j'ai peur. En fait, j'ai peur de retrouver des photos ou des images ressemblant ou semblant et de me dire, ils sont là. Et c'est ça que j'ai peur. J'ai pas envie qu'ils sont là. Et pourtant, je suis persuadé qu'ils sont là-bas.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Est-ce que tu as fait ce cheminement d'essayer de retrouver ta famille? Donc là, c'est quand tu reviens en 2006 et que tu restes ici. Tu as parcouru le Cambodge pour essayer de retrouver ta sœur, ton frère, tes parents, de retrouver le village dans lequel tu as grandi. Et qu'est-ce que tu as retrouvé dans cette recherche?
J'ai retrouvé justement ce fameux majordome, ce fameux oncle, qu'on appelle l'oncle. Mais il a un peu perdu aussi la tête, au fait. Donc il a raconté un peu n'importe quoi et comment. Et il est plus ou moins traumatisé aussi par les événements. Il m'a raconté un peu l'histoire de ma petite famille. Mais sans trop vraiment rentrer en détail, c'est dommage parce que j'ai perdu la bande sonore. Et de ce que j'ai compris, c'est une famille bourgeoise, qui en avait pas mal de champs de pastèques, des champs d'oranges et compagnie.
Et ça, tu te souviens plus, toi, d'enfant, de ces pastèques, de ces champs, de tes parents?
Si, un peu quand même. Si. J'ai quand même 2-3 images, mais c'est pas précis, au fait, ça. Mais je me souviens vraiment des prairies immenses, de l'agriculture, des pastèques, ça je me souviens. Mais...
Et ces lieux, tu les as retrouvés?
Oui, j'ai retrouvé le lieu. J'ai même retrouvé la maison, qui est effectivement à Slao. C'est la banlieue du Battambang. Maintenant, c'est quelqu'un qui habite là-bas, enfin, d'une autre famille qui habite à l'intérieur. Mais je n'ai pas tellement reconnu, en fait. Là, c'est parce que ça a été détruit, je pense. Il n'y a plus de pastèque, il n'y a plus d'orange, il n'y a plus rien, en fait. Comment dire, l'atmosphère me dit quelque chose, mais pas précisément, en fait.
Mais tu as retrouvé personne de ton enfance, de ton village d'enfant, des gens que tu connaissais à cette époque-là?
Non, je sais pas.
Et que tu as rencontré plus tard dans les camps, en étant avec les Khmers rouges à ce moment-là, tu as quand même vu des gens. Enfin, tu n'étais pas seul, tu n'étais pas isolé. Donc toute cette époque, jusqu'à ton départ en France, en 88... tu étais ici au Cambodge, et ces gens-là, tu les as jamais retrouvés?
Non, je ne les ai jamais retrouvés. En fait, les clans que j'étais pour les Khmers rouges, quand les Vietnamiens sont venus dans les années 80, on a premièrement chassé les Khmers rouges avec les Vietnamiens qui sont venus délivrer le Cambodge. Et donc, nous, on s'est enfuis, et là, c'est là qu'on a commencé vraiment à se séparer, les clans se sont séparés, et nous, on est partis dans les régions en nord, en direction de la Thaïlande. Et on s'est retrouvé dans le camp de Sakeo. Sakeo accueillait les anciens Khmers rouges, si tu veux. Mais bon, on était habillés en noir, on avait des armes, et donc ils ont commencé à nous chasser.
Là, c'est quoi? C'est avant que tu ailles en France, c'est ça?
Oui, c'est avant que j'aille en France, oui. Ils nous ont chassés, puis un des plus grands a dit, bah, on va aller au camp de Kaoudang. Mais d'abord, il faut qu'on se retrouve des vêtements, il faut qu'on se retrouve d'autres choses, et il faut qu'on lâche nos armes quelque part, parce que sinon, on ne sera jamais accepté, au fait. Parce qu'on n'avait plus de nourriture, on n'avait plus rien à manger, et voilà. Et donc, on a traversé une forêt.
Là, c'était pour fuir alors les Khmer Rouges, si je comprends bien. Là, tu me parles d'une fuite, quoi. Hein. T'as voulu sortir, donc t'es parti avec des copains, des camarades de fuite, quoi.
Voilà, c'est ça. En fait, je pense pas avoir été vraiment avec des Khmer Rouges. Je ne sais pas en avoir vu, en fait. Si tu veux, des vrais Khmer Rouges, je me souviens pas d'en avoir vu. Je sais que j'étais dans des clans tenus par des plus grands que moi, et puis on était dans la forêt, on faisait toutes les conneries possible, je ne sais pas qui commandait, qui, pourquoi, et on faisait des conneries, en fait, enfin des bêtises qu'on nous demandait de faire.
C'est quoi des bêtises?
Bah, c'est de poser des mines, tirer sur des gens, voilà.
Ça, le quotidien, c'était planqué dans la forêt, et d'où vient l'alimentation, d'où vient le riz, d'où vient tout ça, d'où vient l'eau, d'où vient...
Voilà, justement, bah, un des plus grands allait chercher de l'alimentation, par exemple... pour donner une idée, on était basé, peut-être que c'était pour surveiller une position. Et on protégeait peut-être un endroit. Mais à cette époque, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, en fait.
Il y avait des camps d'extermination, comme on parle de Killing Field. Il y avait d'autres endroits comme ça où on déportait les populations pour les tuer sans raison, en fait.
Oui. Ça, j'en ai vu. Oui.
Ouais, c'est confus dans la tête d'un occidentaux qui découvre cette histoire, ça paraît vraiment incroyable. Et de savoir que c'est récent en fait, hein. Tu dis 93, à 93 c'est il n'y a pas longtemps.
Voilà, près quoi, une quarantaine d'années.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Bon ben voilà, on est à Siem Reap, donc tu as fait le choix de t'y installer, tu as créé un restaurant.
Oui, en fait c'est pas un restaurant.
Pourtant j'ai mangé. Hein.
Pourtant tu as mangé, mais en fait c'est une ONG, si tu veux. Avec mon histoire d'aider de sauver le monde avec les jeunes prostituées, je me suis bien sûr cassé les jambes, cassé les bras... J'ai ouvert le premier night market au centre-ville, donc j'ai travaillé pour un an night market. Ensuite, j'étais guide, j'ai donné des cours de français, j'ai aussi donné des cours à Salabaye. Et à un moment donné, bah, j'ai dit, écoute, j'ai rencontré ma femme, qui était chef au Victoria à l'époque. Puis je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux quitter l'endroit où tu es, puis on peut ouvrir un restaurant, mais j'ai une idée, c'est qu'on va, au lieu de faire un vrai restaurant, on va plutôt aider les jeunes. C'est-à-dire qu'on va créer un endroit où le jeune va se sentir en sécurité et en famille. Donc l'idée de ce restaurant, ça fait 8 ans qu'on a créé maintenant, c'est d'accueillir les jeunes, on va pas les fusiller du regard, hein. Les jeunes en difficulté. Je t'expliquerai après les différents cas si tu veux. Et signe des contrats de 4 à 8 ans avec nous. 4 ans pour ceux qui ont le bac et 8 ans pour ceux qui n'ont pas le bac. Ils obtiennent un diplôme qu'on appelle le master ici. Après, je les fais s'envoler dans la nature. Et 60% du restaurant part pour financer justement ce projet. Donc ici, tu as des chambres pour filles, des chambres pour garçons. Donc les garçons sont en bas, les filles sont en haut. Tu as 18 élèves ici. Donc les âges, il n'y a pas d'âge. Ça va de 14 à 30 et quelques. Il n'y a pas d'âge en fait. On vit en communauté, on s'appelle frères et sœurs. Il y a beaucoup de travail sur la psychologie, beaucoup de travail sur... surtout du travail sur la psychologie. Et je leur fais comprendre que si on n'a pas ce restaurant, ils n'ont pas de financement pour le projet, si tu veux.
Quand tu dis des jeunes à difficulté, c'est quoi les difficultés qu'ont les Cambodgiens aujourd'hui, les jeunes Cambodgiens ?
Encore une fois, je m'oriente vraiment sur les filles. Hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Parce que tu es un homme.
Oui, sûrement. Et en fait, c'est de sortir un peu de la procession, comme j'ai toujours voulu faire, en fait. Mais là, avec des projets beaucoup plus précis, si tu veux. Le problème qu'il y a au Cambodge, c'est que la jeune fille au Cambodge est très vulnérable, dans la mesure où... Enfin, comment t'expliquer ça ? Elle doit rendre la vie que les parents ont donnée. Elle a une dette envers les parents, parce qu'on lui a donné la naissance. Tu vois, voilà, c'est ça, en clair, c'est un truc comme ça. Et donc, elle va tout faire dans sa propre vie pour rendre la dette, pour rendre la naissance. Si tu veux. L'homme, c'est la force, mais elle, c'est l'intelligence. Et donc, elle est prête aussi à se vendre pour amener de l'argent, pour amener du bien à la famille, si tu veux. Et donc, elle va se prostituer, elle va...
Donc la prostitution, c'est quelque chose de fréquent ici au Cambodge, hein.
Oui, bien sûr. Oui.
On parlait aussi à une époque de tout ce qui était trafic d'êtres humains, trafic d'enfants.
Oui, il y a toujours du trafic d'êtres humains, il y a toujours du trafic d'enfants, de jeunes femmes, etc. Si tu veux, regarde, t'as un gars par exemple qui arrive dans un village, il promet monde des merveilles aux parents. Qui n'a pas les moyens de financer des études pour les gamins. Ben le gars lui promet en disant « Écoute, je veux ramener ta fille en Thaïlande, elle va travailler dans une usine de textile ou peu importe. » Et voilà, et donc les parents acceptent, la fille accepte, et puis finalement elle se retrouve dans les bordels ou des choses comme ça.
Et elle rentre après chez elle ?
Certaines oui, certaines non. Pour les hommes, c'est beaucoup plus dur, hein, parce que tu as, je ne sais pas si tu as entendu lui parler, mais des passants bateaux, ils vont travailler dans les chalutiers et ils ne retrouvent jamais la terre, en fait, parce qu'ils se passent de bateau. C'est la main d'œuvre qui se passe de bateau en bateau.
C'est une forme d'esclavage moderne, en fait.
C'est ça, c'est exactement ça. Arrivés en Thaïlande, ils prennent leur carte d'identité, ils prennent leur passeport, ils sont pleins, en fait, si tu veux.
Et on les fait bosser sur des bateaux
Et on ne retrouve jamais la terre. Certains retrouvent la terre par chance, si tu tombes sur un patron chanceux, mais c'est assez rare. Hein,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu restes ici ? Tu as finalement cette double culture, tu es français, tu es khmer, tu es les deux. Enfin, je ne sais pas s'il faut choisir l'un ou l'autre, je pense que tu es les deux. Enfin, après, ça c'est à toi de définir, mais qu'est-ce qui fait que tu restes ici ?
Parce que je me sens bien, parce que je pense avoir trouvé un certain équilibre. J'ai une femme qui m'aime, j'ai un enfant aujourd'hui. Je n'avais jamais créé de famille, je n'avais jamais ressenti ce que c'était vraiment une famille, au fait. Aujourd'hui, j'ai une famille que je veux préserver, que je veux la voir grandir. Oui, je me sens comme un papa nounours aussi. Parce que je pense que ce que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune, je voudrais donner à ma fille.
Non, ça c'est beau ce que tu dis, ce que tu n'as pas eu, tu veux le donner à ta fille, et c'est ce que
Qu'est-ce
je te dis.
Qu'est-ce que je n'ai pas eu ?
L'amour de parents, tu n'as pas eu de parents, tu les as eus, mais ils sont partis tôt.
J'ai eu tard l'amour de mes parents, mais en étant jeune, je n'ai jamais eu d'amour, en fait. Donc oui, c'est ça que je lui ai donné.
Et pour en revenir à ce que me disait Tida, que j'ai rencontré, qu'elle entend des expressions sur les marchés que les parents utilisent pour leurs enfants. Alors c'était quoi les expressions ? On les a traduites en français, donc c'est peut-être pas « tu vas avoir la dernière balle » ou « je vais t'étrangler, je vais t'étouffer ». T'entends des réflexions comme ça, des parents qui disent ça à leurs enfants ?
Oui, bien sûr. Mais ce sont que des expressions, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, monsieur.
Mais ça vient quand même sûrement du passé historique très lourd.
C'est comme tu dis en français, tête de mule, je peux pas te trouver l'équivalent.
Mais on ne dit pas je vais t'étrangler, quoi.
Voilà, mais c'est ce genre d'expression, mais je pense qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup d'amour au Cambodge. En fait, si tu vois, au Cambodge, la société, elle est vraiment très très bien, en fait. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de maison de retraite, par exemple, les personnes âgées vivent à la maison. En fait, tout le monde vit à la maison. Ici, par exemple, mis à part mes enfants, que je veux dire entre guillemets mes élèves, mais il y a le frère de ma femme, il y a la sœur, les deux frères, la sœur, les grands-parents, malheureusement, ils sont décédés l'année dernière. Mais en fait, à un moment donné, on était tous ensemble, si tu veux. Et la société, cette société cambodgienne, je dirais, c'est un peu asiatique aussi. On vit tous dans une même maison, ensemble. Et c'est bien parce qu'il y a comme une entraide, au fait. C'est, on mange ensemble, on partage les mêmes endroits. La seule chose qui pourrait un petit peu, moi, me déranger en tant qu'Européen, c'est une sorte d'intimité. Il me manque de l'intimité. Mais à part ça, quand tu t'adaptes, ça va. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, regarde, par exemple, comment c'est conçu ici ? On a des chambres, on n'a que des chambres. Il y a une cuisine au milieu, en fait, si tu veux. Donc, tout le monde cuisine dans cette cuisine. Et les chambres, c'est le seul endroit où c'est propriété privée. Mais c'est tout le monde, tout le reste, on vit dehors, en fait.
Peut-être ma dernière question. Donc, le Cambodge est un pays qui est en train de construire son avenir. Beaucoup de choses sont à mettre en place, à construire ici. Est-ce que les Khmers parlent encore de leur passé ? Est-ce que vous parlez, quand vous vous retrouvez entre anciens, du passé du Cambodge, où vraiment tout le monde a essayé d'oublier ce qui s'est passé et regarde vers l'avenir ?
Ouais, c'est une très très belle question que tu me poses là. En fait, si tu veux, ceux qui parlent du passé, c'est que les gens de mon âge. Mais il faut comprendre que les jeunes aujourd'hui n'ont pas connu les Khmers rouges. D'accord. Donc, par exemple, à partir de 85, c'est la période vietnamienne, hein, dans les années 80, 90. Donc, ils ont plus connu la période vietnamienne que la période Khmer Rouge. Et ceux qui connaissent vraiment la période Khmer Rouge, c'est des gens, enfin, à partir de mon âge, si tu veux. Il y a comme un tabou qui s'est créé, c'est qu'on n'en parle pas trop. C'est bizarre. J'essaie de comprendre moi aussi. Hein. J'essaie de savoir le pourquoi et le comment. J'essaie d'interroger par exemple ma belle-mère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma belle-mère, elle a à peu près mon âge. En fait, je pense qu'elle a 50 et quelques années. Et donc il y a quoi, 10 ans d'écart. Donc elle était beaucoup plus grande que moi à l'époque. Hein. Et donc j'essaie de lui poser des questions vraiment assez précises. Et t'as un visage qui tombe. T'as quelque chose qui... Il y a un moment donné, elle ne veut plus répondre. Ou elle trouve un autre prétexte pour dire « Oh, bah tiens, je vais préparer à manger, je vais au marché. » Enfin bref, elle trouve un prétexte pour t'esquiver à chaque fois. Et je pense que c'est... Je ne sais pas, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Et je pense qu'elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Parce que, un, il n'y a pas d'éducation ici qui parle... Dans l'éducation, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de livre, hein. C'est vraiment des livres Khmer qui parlent de ça. Et donc, on s'invente et on dit. Et les jeunes s'approprient. Par exemple, tu entendras parler des jeunes, par exemple 20 ans ou 25 ans, 30 ans, qui diront « Ah, les Khmer rouges, j'étais... » Alors qu'ils n'ont jamais connu. Et pour en créer une autre histoire. C'est marrant parce que je pense que c'est trop tôt pour que... Les gens de mon âge puissent faire la part des choses et puis faire un recul. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais en France et j'ai pu lire des bouquins qui fait que je te dis que ça a pu faire la balance, ça a pu m'ouvrir les portes. Mais ici, en Cambodge en lui-même, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Bon, aujourd'hui, on a Internet, on a des nouvelles technologies qui fait qu'on peut plus s'ouvrir. Mais... dans les villages assez éloignés de Siem Reap, des grandes agglomérations, si tu veux. Je pense que la seule chose qu'ils pensent, c'est comment je vais nourrir ma famille demain. Et dans les agglomérations, dans l'urbain, c'est comment je vais gagner de l'argent avec les touristes, avec, en travaillant, etc. Donc,
c'est vraiment la culture de l'instant présent, quoi. On pense que demain, c'est loin, presque, ou alors on prépare demain, mais hier, c'est du passé. Mmh.
Il n'y a pas de demain loin. C'est demain, demain et puis et dans quelques mois. Ça ne va même pas à l'année. Hein. C'est très très court terme. Et donc, leur quotidien, enfin notre quotidien, parce que j'en fais partie aussi, notre quotidien pense plutôt à l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Voilà.
Bye, merci à toi d'avoir partagé une tranche de ton histoire. Donc maintenant, tu écris un chapitre nouveau hein, depuis quelques années ici au Cambodge à Siem Reap dans un restaurant qui est finalement une ONG avec cette envie d'aider la population locale. Et tu vas donc rester encore ici quelques années.
Ah oui, je pense que je vais rester très très longtemps même, je dirais. Ouais.
Merci à toi.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.